Et nous recevons ce soir Émilie Atchaka du CADD Bénin, membre du CADTM International, et Christine van den Dalen du CADTM Belgique. Et elles viendront nous parler de l'université d'été du CADTM qui vient d'avoir lieu. Et bienvenue Émilie, Christine.
Bonjour.
Voilà, donc on s'est dit en voyant l'annonce pour l'université d'été qu'il serait intéressant de vous avoir pour nous faire un petit débriefing de cette université, nous expliquer un peu ce qui a été dit, quels ont été les échanges, les objectifs de cette université d'été et le résultat de toutes ces rencontres. Mais avant toute chose, peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est le CADTM. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Bah, sans problème, avec plaisir. Donc le CADTM, ça veut dire en gros Comité d'annulation de la dette du tiers-monde. Tiers-monde, hein, c'était avant que la crise de 2008 arrive jusqu'à nos portes. Et donc nous existons depuis une vingtaine d'années. L'initiative a été lancée sur Liège et puis les fondateurs ayant pris conscience que le phénomène de la dette était universel, petit à petit le réseau s'est amplifié puisque des associations d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie ont fait le combat sur la dette publique puisque en son nom ont été appliqués les pires programmes d'ajustement structurel qui sont exactement l'équivalent mais avec des conditions encore plus drastiques que celles qu'on voit ici, dans les pays du Sud qui étaient sous le diktat du FMI et de la Banque mondiale.
Ok, et Émilie, ça fait combien de temps que le CADD est le partenaire du CADTM ?
Ça fait depuis 2006, donc pratiquement 7 ans, que le cercle d'autopromotion pour le développement durable, qui est un réseau féminin, est devenu partenaire à part entière au comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde.
Et quel était l'intérêt pour ton association de devenir le partenaire du CADTM?
L'intérêt vraiment pour mon association, qui est un réseau féminin, d'adhérer au comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on parle de l'austérité en Europe, mais chez nous, c'est le programme d'assurance structurelle qui a pas mal d'impact sur nous, les femmes. Donc, en ce moment, vraiment, il y avait pas mal de choses qui s'est passées sur nous, les femmes. Et en tant que femmes, membres du réseau de femmes, nous avons dit, mais il faut vraiment aller sur cette saisie, saisir cette opportunité pour pouvoir vraiment travailler sur la question de l'endettement, voir comment on peut se mobiliser contre vraiment ces institutions internationales qui vraiment ne veulent pas vraiment le développement de la population à la base en Europe, en Amérique, en Afrique, partout dans le monde. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit, mais il faut qu'on rentre en partenariat avec le CADTM.
Ok, merci. Et Christine, tu as évoqué le fait que depuis la crise de 2008, effectivement, il y avait les programmes d'austérité qui étaient mis en place en Europe, en parallèle, enfin, en réponse aussi aux programmes d'ajustement structurel au Sud. Quelles sont les actions principales du CADTM dans les différents pays ?
Bon, il y a plusieurs niveaux, évidemment. Donc, le niveau le plus important pour nous est la mobilisation populaire, puisque on sait très bien qu'avec les gouvernements qu'on a en Europe particulièrement, on n'arrivera pas à un changement de la situation en allant chez le politique et en lui disant les politiques que vous appliquez sont socialement suicidaires, quoi. Donc, mobilisation populaire. Et pour arriver à cette mobilisation populaire, il n'y a pas 20 000 façons. Il faut diffuser l'information, faire des formations, être présent dans les autres collectifs qui se mobilisent contre l'austérité. Et avoir de plus en plus d'échanges, d'analyses, de textes et d'actions menées communément. Donc dès qu'il y a dans les pays européens qui sont membres du CADTM, par exemple en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie, dès qu'il y a des mobilisations, les membres du CADTM qui sont dans ces pays-là, les rejoignent, puisque tout ce qu'on veut, nous, c'est la convergence des luttes. Et c'était d'ailleurs le titre de l'université, convergence des luttes au niveau européen, parce que on voit très bien aussi que sans solidarité européenne, la Grèce ne s'en sortira pas. Et donc, sans niveau européen, c'est un petit peu foutu face à des commissions européennes et des institutions telles que celles qui sont dans la Troïka.
Mais est-ce que l'expérience nous montre que, justement, par rapport au tiers-monde et aux pressions qui ont été faites dans ces pays sur base de la dette, et puis l'expérience de la Grèce, tout ça, c'est un outil pour montrer aux citoyens, enfin, ça peut être converti comme un outil pour montrer aux citoyens ce qui se passe ici, progressivement?
Ça, c'est justement un des résultats, enfin, des... Comment dire, dans tous les ateliers qu'on a eus à cette université d'été, on avait vraiment tenu à faire en sorte que la dimension du Sud soit super présente, même si c'était CADTM Europe. Pourquoi ? Parce que effectivement, eux, ils ont 30 ou 40 ans de politique d'austérité dans les dents, et donc ils ont des alternatives beaucoup plus concrètes, et c'est eux qui pour l'instant nous donne, nous motive, enfin pas nous motive, mais nous donne des idées et des idées concrètes de lutte à mener. Et par exemple, quand l'une ou l'autre personne sort, d'Europe sort, on va remettre en place des systèmes de troc ou des banques sociales et tout, des personnes comme Émilie disent, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, hein, même si ce sont des projets d'autogestion qui in fine ne changent pas le système, parce que c'est vers ça qu'on veut aller, qui calfeutre les difficultés sociales de tous les jours. Mmh. Mais donc, effectivement, et au CADTM, il y a 4-5 ans, quand on disait « mais regardez ce qui s'est passé au Sud », au nom de la dette, on nous riait au nez, quoi.
Émilie, qu'est-ce que ça a signifié pour vous, ces 30 années d'ajustement structurel dans votre pays ?
30 ans d'ajustement structurel dans notre pays, il y a pas mal de choses qui sont passées, parce que d'abord, nous, on a eu deux étapes de passe. La première étape, c'était vraiment de demander volontairement aux fonctionnaires de quitter la fonction publique et de leur donner un sou bizarre pour dire « allez, lancez-vous dans la vie active, lancez-vous dans l'agriculture, etc. » quoi. Ensuite, la seconde étape, c'était vraiment le départ ciblé qui consistait à renvoyer maintenant une fois de nouveau les gens qui n'ont pas été volontairement sortis de la fonction publique. Donc là, il y avait du désastre, et après, c'est la fermeture des sociétés. Il y a pas mal de choses qui s'est passé. C'est le délaissement par le gouvernement des secteurs sociaux de base comme l'éducation et aussi le santé. Sur le plan de la santé, il y a plus vraiment de soins de qualité au niveau des centres de santé publics, ce qui a donné l'existence à plus de centres de santé privés. Et aujourd'hui, nous, en tant que vraiment la population, la couche la plus démunie, on peut pas aller à ces centres de santé. Donc, il y a pas mal de choses qui s'est passé, et c'est autour de ça qu'on se réunit. Et parce que quand on parle du problématique de la dette, c'est vraiment un cercle vicieux qui est très important à comprendre ce qui se passe dans ce cercle vicieux avant de pouvoir l'attaquer dans tous les sens. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au Bénin. Et si je vous donne deux exemples typiques par exemple sur la santé aujourd'hui, c'est inacceptable que les premiers soins de santé ne puissent pas se donner aujourd'hui à la population à la base. Par exemple, si vous avez fait un accident aujourd'hui au Bénin, si vous partez au niveau de centre de santé publique au Bénin, mais les premiers soins, vous ne pouvez pas recevoir, vous pouvez rester là, mourir. Donc, c'est par les luttes aujourd'hui que les mouvements sociaux, la société civile fait, qui maintenant, le gouvernement béninois a commencé par prendre conscience pour dire « je vais mettre un truc de mutuelle de santé en place » et ça consiste à donner moins de 2 euros par personne, par mois, pour vraiment faire quelque chose sur le plan de la santé. Et par exemple, toujours sur le plan de la santé, c'est inacceptable aujourd'hui qu'on voit des femmes qui, en voulant donner la vie, perdent la vie sur la table d'accouchement. C'est inacceptable, tout simplement parce que le soin de la qualité n'y est pas. À cause du PASS, il y a beaucoup de gens qui ont créé leur centre de santé. Même les docteurs vous fassent le coup. Non, ce n'est plus bon ici. Venez dans mes cabinets privés alors que c'est très cher. Donc voilà, dans l'éducation, idem. Il n'y a pas de l'eau potable partout. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui prennent de l'eau de puits. Et à côté de l'eau de puits, vous voyez la vie, la condition de vie du Sud. Il y a les toilettes qui sont là. Et au moins, les normes nous demandent quelques distances des toilettes de puits. Donc aujourd'hui, au Sud, on ne peut plus vraiment boire l'eau de puits. Mais ce qui est encore réel, l'éducation fouchue, tout est fouchu. Donc là, vraiment, ça ne va pas, quoi.
Donc, concrètement, j'imagine que autant ton association que d'autres groupes au Bénin se mobilisent. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de lutte, justement, de mobilisation citoyenne qui se sont mises en place? Et notamment, j'ai vu que lors de l'université d'été, tu avais parlé du microcrédit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour...
Ouais, vraiment, il y a des mobilisations que nous sommes en train de faire au niveau des associations de femmes, de jeunes, au niveau des syndicats. Et aujourd'hui, il y a la plateforme de la société civile dont nous fait partie, qui nous permet vraiment de travailler sur des questions bien, bien claires et bien précises, également sur les enjeux. J'ai parlé également de microcrédit au niveau de la troisième université d'été, tout simplement parce que c'est encore un cercle vicieux qu'on n'arrive pas à détecter, que tout le monde n'arrive pas à comprendre. Parce que après le PASS, le système d'épargne et crédit, c'est que on nous a fait comprendre que c'est pour l'épanouissement de la femme, de la population à la base, c'est pour le développement, mais ce n'est pas vrai. Ce qui se passe dans ce cercle, c'est encore plus grave parce que c'est un outil, d'abord, pour enliser plus la femme dans la pauvreté et également la population. C'est un outil qui ne fait pas développer les gens, qui les appauvrit encore plus, tout simplement parce que il y a les intérêts qui sont à un taux de l'usure. Vraiment. Imaginez-vous que les intérêts dans ces banques de microcrédit peuvent aller jusqu'à 50%, parfois 100% dans des pays. Parce que j'ai eu l'exemple du Maroc, j'ai visité les femmes à Ouarzazate, à 700 kilomètres de Casablanca, et ces femmes-là, elles sont des victimes du microcrédit, et ça amène au suicide, ça amène au divorce dans les foyers, ça amène vraiment à des résultats inacceptables, à des résultats inhumains. Donc c'est pourquoi nous, lors de la troisième université du CADTM, on a dit il faut vraiment en parler plus pour que les gens puissent comprendre ce qui se fait. Et à côté de ça, nous, on a mis en place une petite alternative depuis 20 ans et nous sommes en train vraiment de travailler là-dessus, que nous partageons à tout moment avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, à partir de 40 personnes au niveau du Bénin, au CADD, nous sommes arrivés à près de 5000 personnes. Nous avons pu mettre en place notre propre système d'épargne et crédit, autogéré par nous-mêmes, qui vraiment nous permettent à faire les petits commerces. Et à partir de ça, on a fait une chaîne commerciale et toutes les femmes en zone rurale peuvent obtenir le crédit au sein du réseau et faire la transformation des produits locaux. Et toutes les femmes de la zone urbaine peuvent aller en zone rurale chercher ces produits-là et venir revendre. Et qu'est-ce qui est vraiment important dans ça? Le taux vraiment d'intérêt, c'est 6,5%. Donc, notre banque que nous avons créée, c'est une banque sociale, ce qui n'est pas le même cas au niveau des structures de microcrédit, parce que je dis, les microcrédits, c'est égal vraiment aux banques, au FMI, à la Banque mondiale, tout simplement parce que c'est basé sur le capital. Et pour que le système du microcrédit soit à la portée de la population, puisse les sortir vraiment de la pauvreté, il faut que ça soit vraiment social et non économique et non capital. Voilà.
Ouais, de la petite échelle à la grande échelle, en fait, Christine, du CADTM, on retrouve ces mécanismes-là, ce qu'on a appelé dans les pays du Sud les ajustements structurels. Aujourd'hui, on les appelle quoi, ASCG, l'accord de stabilité, de coopération et de gouvernance. C'est les mécanismes dont on entend parler aujourd'hui dans nos news nous parlent en fait de cette même logique, tenir par l'endettement. Qu'est-ce que ça menace? Qu'est-ce que ça va modifier ici?
Bon, ben tout simplement, on a compris que la dette, comme l'a dit Zoé en début d'émission, est un prétexte. C'est un cache-sexe. C'est un cache-sexe à ce qu'on a appelé la stratégie du choc. Stratégie du choc néolibérale qui, tout simplement, ses objectifs, ils sont clairs. C'est libéralisation, c'est privatisation, c'est casse des dépenses sociales. C'est tout simplement, en fait, s'attaquer aux classes populaires les plus précarisées et dont souvent les femmes, puisqu'elles sont encore malheureusement majoritaires parmi les catégories pauvres et précaires. Et donc c'est vraiment arrivé à un saccage social, alors que les responsables de la crise, on sait très bien que ce ne sont pas la population. Et au nom d'une dette publique, donc on utilise aussi le terme « public », pour dire c'est au nom de la dette que vous devez maintenant, votre génération doit payer pour tous les investissements sociaux qui ont été faits depuis 30 ans et qui ont accumulé une dette publique. Mais tout ça est pure escroquerie, puisqu'en fait la dette elle est privée, dans le sens où elle vient en grande partie d'une fiscalité complètement injuste. Donc c'est en Belgique, on est un paradis fiscal qui fait en sorte que les plus riches payent le moins. Première chose. Deuxième chose, on a sauvé nos chères banques qui ont encore fait gonfler la dette. Et puis troisième chose, maintenant, depuis le traité de Lisbonne, les États ne peuvent plus emprunter auprès de leurs banques centrales. C'est-à-dire que les États européens ont signé dès demain leurs propres enfermements. C'est-à-dire qu'ils ont dit, OK, on se met sous la coupe des marchés financiers, puisque ce n'est plus qu'auprès d'eux qu'on peut emprunter, et à des taux complètement dingues, ce qui fait que la dette augmente. Et nous, on a coutume de dire au CADTM que cette dette n'a de public que le nom, puisque l'État a repris la dette privée des banques et qu'on fait payer la somme, qu'on fait payer la facture, quoi, aux populations et aux femmes.
Et comment on peut contrer ça? Parce qu'on entend souvent, notamment par rapport au Sud, dire que si on annulait la dette, tout irait mieux et que tous les problèmes seraient résolus. Ça, d'une part, quel serait le résultat, effectivement, d'une annulation de la dette? Ça, c'était la première question. Et puis, d'autre part, quelle est encore la marge de manœuvre des gouvernements, éventuellement, puisqu'effectivement, ils ont signé des accords et ils sont pieds et poings liés par rapport aux banques, par rapport au système financier international. Qu'est-ce que le CADTM propose, entre guillemets, et quelles seraient les pistes d'action?
Ouais. Alors, par rapport à l'annulation de la dette, c'est pas la solution miracle, c'est une des solutions parmi toute une autre série de processus qui doivent être mis en place après une annulation de dette. Je suis un peu fatiguée. On a eu justement cette université, donc. Et pour prendre un exemple très concret, on a eu pour annuler une dette, il faut d'abord voir de quoi elle est composée. Donc on a commencé à faire des audits de la dette avec des gouvernements progressistes en Équateur. Donc Éric Toussaint, par exemple, a participé à l'audit de la dette équatorienne qui a permis d'économiser 7 milliards d'euros qui ont été réinvestis dans les secteurs sociaux. Alors évidemment, ça a été possible parce qu'il y avait un gouvernement progressiste. Ça a été possible aussi, la réutilisation de l'argent de la dette publique, faire en sorte que cet argent ne disparaisse pas dans le secteur privé, mais aille véritablement aux besoins sociaux, parce qu'il y avait un gouvernement progressiste. Donc quand on revient ici en Europe, Ben là, je reprends un peu ta seconde question. Qu'est-ce qu'on peut faire alors que le paysage politique européen est loin d'être progressiste? Donc, on sait très bien qu'on ne participera pas à un audit institutionnel avec un gouvernement qui va prendre en compte les résultats qu'on aura mis à jour, parce qu'on sait très bien que la partie de la dette légitime est complètement très faible par rapport à l'illégitime. On le sait très bien, il ne faut pas ouvrir les secrets publics de l'État pour le découvrir. Donc, dans le contexte européen, que faire? Ben, dans le contexte européen, c'est faire un audit citoyen de la dette. Citoyen, parce que le public, on ne peut pas compter, le politique, on ne peut pas, pour l'instant, travailler communément avec lui, puisque le rapport de force n'est pas là. Et petit à petit, dans différents pays, donc France, Grèce, Espagne, Belgique maintenant, puisqu'on a lancé la campagne d'audit, eh bien, citoyens, citoyennes commencent à reprendre possession de qu'est-ce qu'une gestion publique, comment est-ce qu'elle devrait être, et surtout, à quoi a été affecté l'argent du budget public, autant fédéral que communal. Et avec ces chiffres, arriver à faire en sorte que le message passe de plus en plus auprès de plus en plus de gens et qu'on revienne, comme je disais en début d'émission, sur une mobilisation populaire, quoi, sur le fait que les gens, véritablement, ils s'indignent, hein, on connaît, ils s'indignent et se lèvent contre leur gouvernement, tout en sachant bien qu'on est dans un contexte européen particulier, qui est celui justement de tous les traités qui ont été signés par nos dirigeants. Et alors, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que nos dirigeants s'enferment d'une manière, lâchent leurs droits et leurs politiques d'une manière volontaire, sans s'opposer en tout cas, sans faire de politique de rupture? Tout simplement parce qu'il y a véritablement entre le monde politique et le monde de la finance de telles passerelles et de telles interconnexions que voilà, quand on voit que le dirigeant, que l'ancien dirigeant de l'Italie était Mario Monti, qui était employé chez Goldman Sachs, enfin quand on voit par exemple que dans le conseil d'administration de Dexia, vous trouviez de Han, enfin bon, quand on regarde un petit peu la composition et même l'histoire de chaque homme et femme politique, eh ben on se rend compte que les liens entre la finance et le politique actuellement sont véritablement sont très forts, pour pas dire confondus. Donc voilà, je pense que j'ai un peu répondu. Oui.
Cette question-là, comme d'autres, il y a besoin d'investigation, il y a besoin aussi d'une bonne pratique de la liberté médiatique. C'est quand même pas facile de mobiliser des gens alors que les médias questionnent pas le fond de la question de la dette. Comment est-ce que vous faites entendre alors que on ramène le public, si on regarde un JT aujourd'hui en Belgique francophone, mais uniquement disons-le, au dictat de l'Europe des plus puissants.
Oui. Ben, les médias sont le quatrième pouvoir. Et c'est clair que on essaye petit à petit, on arrive quand même, comme le mot passe quand même de plus en plus, et que ça devient presque, pour certains journalistes, indécent de parfois tenir le discours qui était officiel il y a 3-4 ans, puisqu'on voit ce qui se passe en Grèce. Il faut pas être... on voit très bien le résultat de l'austérité. Donc, par rapport aux médias, on arrive petit à petit à avoir de plus en plus une percée face aux médias mainstream, comme on les appelle. Et je dis pas que la lutte est gagnée, hein, du tout, mais on arrive petit à petit à avoir cette écoute. On travaille aussi de plus en plus en convergence avec le milieu syndical, qui lui aussi se dit, mais c'est quoi cette dette, quoi? C'est quoi cette dette au nom de laquelle on ferme les usines, on ferme plein de secteurs productifs. Donc, il y a quand même en Belgique de plus en plus d'acteurs sociaux, et non pas heureusement que le CADTM, qui s'investissent sur ce secteur et qui obligent quelque part certains médias à en parler d'une manière un peu plus critique. Voilà.
Ok. Avant de passer aux dernières questions, je propose un mini morceau musical. Noémie, je propose Le banquier d'extrême gauche de Pivert.
de chansons et te criera des slogans. Il fera l'amour en hurlant, le recombat à l'argent. Un gars qui tape sur les riches, qui porte du Dolce Gabbana. Un fou anticapitaliste, on en trouverait pas deux comme ça. Il te fait croire que la vie n'est juste bonne qu'à dire non. Tu me quittes ma chérie pour le roi de tous les cons. Il t'a promis des vacances, il t'emmènera en randonnée sous les banderoles sur les pavés, vous casserez de l'UMP. Amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait? T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait? Il en a dans la culotte. Avec ma chanson débile, j'ai l'air d'une belle petite fiotte. Mais un beau jour, t'en auras marre de cette bande de fripouilles qui hurlent dans leur mégaphone pour compenser leur manque de couilles. J'espère juste que la misère de ce militant du pire n'assombrira pas tes yeux, n'éteindra pas tes sourires. Peut-être que si tu l'aimes, tu le changeras pour de bon. On le verra dans une semaine, j'ai vendu une boutique de bonbons. T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais, t'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Comment as-tu fait? T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais. Comment as-tu fait? T'es tombée amoureuse d'un banquier d'extrême gauche. Si tu savais.
Voilà, c'était donc Piver et le banquier d'extrême gauche.
Super chanson.
Voilà, Christine, Émilie, on vous a invité pour parler de l'université d'été. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner, peut-être pas tous les résultats ni de toutes les discussions qui ont eu lieu, mais ce qui vous semble le plus intéressant et le plus prometteur aussi en termes de réflexion et d'action?
Ok, ben je vais commencer pour laisser la parole à Émilie ensuite. Donc, ben cette université d'été est la troisième que l'on tient. On a toujours la volonté d'analyser plusieurs thématiques. Donc, on fait des parcours, hein, parce qu'on a les parcours du combattant, de la combattante là. Donc, on a notamment un parcours d'été au nord, parcours d'été écologique, la dette dans l'histoire, parce que bon, la dette, ce n'est pas... Ça sort pas que du 21e siècle et du 20e siècle. Donc la dette dans l'histoire et le droit international, voir comment est-ce que ça peut être un outil de lutte. Et aussi toute une partie sur les luttes féministes, puisque le CADTM, depuis ces dernières années, a vachement renforcé son engagement féministe, son analyse féministe. Et comme on voit bien que l'impact de l'austérité des plans d'ajustement structurel touche principalement les femmes, donc on s'y attelle. Et là, je laisserai peut-être Émilie plus parler du parcours lutte féministe en tant que telle, puisqu'on y a toutes les deux bien participé. Alors, que dire au niveau des résultats en termes généraux? Eh bien... C'est dur le lendemain d'avoir une vision synthétique de tout ça, mais donc étaient à cette université quand même des gens d'un peu partout, d'une vingtaine de pays. Et donc, vingtaine de pays, donc autant d'Europe que d'Afrique et d'Amérique latine. Et on se rend compte aujourd'hui plus que jamais à quel point on a besoin de cette dimension internationale et de la dimension de la solidarité aussi en Europe pour pouvoir avancer. Parce que vraiment l'histoire de l'Inde, de ce qu'il vit dans son pays et de comment il lutte dans son pays face à la dette, à l'austérité ou face aux droits des femmes et compagnie, on voit à quel point tout est semblable et se rejoint et qu'il y a des niveaux, des gradations. Quand on entend une femme de Grèce qui nous raconte ce qui se passe avec la montée de l'extrême droite et compagnie, on se dit, mais en étant conscient de tout ça, en étant conscient de tous ces échanges qui se font à l'université d'été, ben, il faut y aller là. Parce que là, on peut, l'information, on l'a. Il faut y aller ensemble. Il faut essayer de faire en sorte que le mouvement social soit le plus large possible. Donc, que les syndicats qui n'ont pas le même fonctionnement, on va dire, que les mouvements sociaux, ben, que l'un et l'autre, on avance ensemble avec les forces politiques progressistes, parce qu'il y en a quand même, et qu'on lance une véritable dynamique européenne, un front européen uni contre la dette et l'austérité. Donc, on sort de cette université d'été avec cette conviction qu'on n'y arrivera pas chacun dans notre coin, dans notre pays, et que les expériences des uns font résonance et nous permettent d'anticiper. Et donc maintenant, à nous, avec cette anticipation, de lancer véritablement ce fameux mouvement social et cette contestation, même si on a en face de nous une répression de plus en plus forte.
Émilie.
Oui. Bon, voilà, surtout au niveau vraiment des femmes, les résultats du fait vraiment de la troisième université de l'été de l'Europe, c'est de continuer vraiment les luttes à tous les niveaux, dans tous les continents et dans tous les pays. Les luttes et les résistances, et à travers ça, de continuer toujours plutôt à informer la plus grande partie de la population sur les enjeux, vraiment, sur les problématiques de la dette et aussi de faire des actions concrètes sur le terrain. Et à part chaque pays, déjà en 2014, il faut vraiment se retrouver au Maroc, à 700 km de Casa, chez les femmes de Ouarzazate, pour une formation de renforcement de capacité des femmes qui travaillent et qui luttent sur la question de la dette, et aussi de faire la caravane vraiment dans les régions de Ouarzazate pour montrer vraiment à ces populations que le travail précieux que les femmes de Ouarzazate sont en train de faire dans leur lutte, que ce n'est pas seulement les femmes de Ouarzazate, mais dans d'autres pays aussi, que le microcrédit fait ravage au niveau de la population, notamment au niveau des femmes, et il faut vraiment qu'on puisse partager des expériences. Après ça, il y a aussi la caravane en Espagne, qui est vraiment en élaboration, et aussi on a invité vraiment toutes les femmes à rester ensemble, à converger leur lutte ensemble pour être plus forts, parce qu'on voit aujourd'hui que de par le travail, de par le rôle que nous, les femmes, nous jouons, il faut vraiment qu'on aille vraiment très loin dans notre lutte et dans notre résistance pour sauver le monde entier dans les collimateurs de ces institutions qui sont le FMI, la Banque mondiale, le Troïka, etc., etc. Et nous, on ne compte pas en arrêter là, parce qu'à la fin, on s'est dit, nous allons vraiment lutter très fort, nous allons marcher pour libérer le peuple tout entier, parce que il faut que la richesse sur le plan mondial ne soit pas utilisée par 20% plutôt de personnes de la planète, mais par les 100%, et aussi parce que les 20% utilisent, il y a les 80% qui sont là. Donc les 80% aussi de la population de la planète ont vraiment besoin d'avoir ces richesses qui est détenue par les 20% de personnes. Voilà.
Merci Émilie, merci Christine. on arrive à la fin de l'émission. Je vais rappeler le site web du CADTM. Donc, c'est cadtm.org et vous y trouverez une foule d'informations sur tout ce dont il a été question. Merci Liévin, merci Noémie à la technique et à bientôt.
Ciao, ciao.
Bye bye.